Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, pas de fuite radioactive à la centrale de Zaporizhia bombardée par les Russes cette nuit en Ukraine. C'est un bâtiment annexe qui a été touché. Les outils pour surveiller la radiation fonctionnent, dit encore l'Agence internationale de l'énergie atomique. Face à cette situation sans précédent, son directeur veut aller sur place pour trouver un accord avec Russes et Ukrainiens sur la sécurité des sites nucléaires. Il y a 15 réacteurs en Ukraine. Ailleurs, en ce 9e jour de guerre, toutes les villes ou quasiment les grandes villes ukrainiennes sont sous une très forte pression. La répression contre les manifestants, médias et défenseurs des droits de l'homme monte d'un cran en Russie. L'euro baisse face au dollar. Hermès, le géant français du luxe, ferme ses magasins dans le pays. L'entrée en campagne d'Emmanuel Macron suite, après la lettre aux Français dans la presse régionale, un message sur les réseaux sociaux ce soir. Valérie Pécresse l'appelle à débattre avec ses adversaires à la télévision. Une vue d'ensemble sur les inégalités hommes-femmes en France. L'INSEE publie une étude qui rassemble 5 ans de travaux. Santé, salaire, éducation, toutes vos questions à ce sujet à 13h30. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir. Et puis avant la fermeture du salon de l'agriculture, une jeune éleveuse avec Frédéric Pommier, le temps d'une chanson, elle choisit Résiste de France Gall. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
La tension est encore montée d'un cran cette nuit en Ukraine, à Zaporizhia, dans le sud, près des mers Noires et d'Azov, se trouve la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Elle a été visée cette nuit par des tirs d'artillerie russes, ce qui a déclenché un incendie dans un bâtiment annexe. Les nouvelles sont plutôt rassurantes en cette mi-journée. Bonjour Boris Loumagne.
Bonjour Bruno.
L'un des envoyés spéciaux de France Inter en Ukraine, vous êtes avec Laurent Maketti. Que sait-on de la situation dans cette centrale en cette mi-journée ?
Alors, sur place, le risque nucléaire semble effectivement maîtrisé. Vous l'avez dit, pas de fuite radioactive, pas de risque qu'il y en ait une, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les opérateurs ukrainiens de la centrale de Zaporizhia continuent de gérer les installations, mais sous surveillance russe, puisque les forces de Vladimir Poutine occupent la zone. Le principal risque sur place, ce serait un défaut d'alimentation électrique. La centrale en a besoin pour faire fonctionner le circuit d'eau qui permet de refroidir le combustible, mais pas de coupure de courant à signaler. Voilà pour la situation actuelle. Cette nuit, que s'est-il passé ? En pleine nuit, des bâtiments annexes à moins d'un kilomètre des réacteurs ont été touchés, selon les Ukrainiens, par un tir de char venu du sol, donc. Alors, les caméras de vidéosurveillance de la centrale ont filmé la scène, de quoi nous en apprendre un petit peu plus sur l'objectif militaire de l'opération russe. Sur une vidéo, on voit une fusée éclairante lancée avant la frappe, ce qui accrédite la thèse selon laquelle les Russes savaient qu'ils s'en prenaient à un bâtiment annexe et non aux réacteurs en eux-mêmes. Alors, plusieurs façons d'interpréter cette stratégie russe, un coup de pression politique, diplomatique, la stratégie de la peur et ou une prise des centrales nucléaires ukrainiennes pour maîtriser la production d'électricité. On sait que les forces russes s'approchent d'Odessa où se trouve une autre centrale nucléaire ukrainienne.
Il y en a 4 en tout dans le pays et 15 réacteurs. Et bonjour Sophie Becherel.
Bonjour.
Spécialiste science à France Inter, on en parlait avec Boris. L'Agence internationale de l'énergie atomique a convoqué en urgence une conférence de presse ce matin. Face à la situation qu'il qualifie de sans précédent, le patron de l'AIEA propose d'aller en Ukraine.
Oui, à Tchernobyl, un lieu hautement symbolique évidemment. La centrale accidentée en 1986 est hors service, mais investie elle aussi par des troupes russes depuis le 25 février. Raphaël Grossi a indiqué qu'il attendait la réponse de la Fédération de Russie et des autorités ukrainiennes qu'il a contactées. Pour l'AIEA, il est temps d'agir face à la demande d'assistance de Kiev. On ne peut pas se contenter de parler et de tweeter depuis Vienne, a-t-il dit.
My presence in this place are not going to be.
Mon voyage là-bas ne sera pas facile, mais il n'est pas impossible. Si nous devons fournir de l'assistance, nous devons être là-bas. Et le premier à y être, ce doit être le chef de l'AIEA. Je suis très préoccupé. La situation est très fragile, très instable.
Lors de cette rencontre, M. Grossi espère avoir une meilleure idée de ce qui se passe. Il va proposer un accord en 7 points pour garantir la sécurité et l'intégrité des sites nucléaires ukrainiens. 7 points dont la garantie, par exemple, de laisser le personnel ukrainien opérer la centrale, le maintien d'une surveillance continue de la radioactivité ou encore la non-destruction des circuits électriques.
Il veut donc aller sur place. Est-ce que tout de même, Sophie, on peut avoir des informations à distance sur ce qui se passe dans cette centrale ?
Alors, on peut dire oui au téléphone. Et l'AIEA est en permanence en contact avec l'autorité de sûreté nucléaire nucléaire ukrainienne, c'est elle qui assure le relais avec les pays européens notamment. Monsieur Grossi a confirmé qu'hormis ce bâtiment, aucune installation sensible n'avait été touchée. Ça, on peut le savoir par exemple aussi avec des images satellites. Pour les fuites de radioactivité, il y a les capteurs autour des centrales et partout ailleurs sur le territoire européen. Pour l'instant, pas d'anomalie détectée. Pour le reste, donc, il faut se rendre sur place ou parler, d'où les échanges permanents. D'ailleurs, ce matin, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire français a discuté au téléphone, échange technique. Oui, l'électricité est maintenue à Zaporijjia et les réacteurs refroidis. L'autorité de sûreté nucléaire, elle aussi, a activé son centre d'urgence pour suivre la situation.
Le président ukrainien appelle à de nouvelles sanctions contre Moscou. Il appelle les Russes à descendre dans la rue. À l'instant, au contraire, le Kremlin appelle ces mêmes Russes à s'unir autour de Vladimir Poutine. Très grosse activité diplomatique aujourd'hui. Ce matin, à Bruxelles, les 30 ministres des Affaires étrangères de l'OTAN se sont réunis. L'Alliance Atlantique ne veut pas être engagée dans le conflit, répète son secrétaire général. Nous sommes une alliance défensive. Nous défendons notre territoire, ajoute le chef de la diplomatie américaine. Bonjour Angélique Bouin.
Bonjour.
À l'Alliance Atlantique comme ailleurs, Angélique, l'inquiétude est montée d'un cran ces dernières heures.
Ah oui, on l'a bien senti à l'ouverture de cette réunion de crise ce matin, avec cette première déclaration du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, visage grave, qui est revenu sur les événements de la nuit.
Nous condamnons l'attaque contre une centrale nucléaire. Ça démontre le caractère irresponsable de cette guerre, la nécessité d'y mettre fin et de voir les Russes retirer leurs troupes.
Même inquiétude chez Pekka Haavisto, c'est le ministre finlandais des Affaires étrangères.
Le fait qu'il y ait des combats actifs à proximité de la centrale, c'est très effrayant. C'est un concept effrayant. On espère que les troupes russes vont arrêter ça très vite dans cette région.
Mais pas question pour autant à entendre les ministres d'instaurer une zone d'exclusion aérienne sur le territoire de l'Ukraine, comme le réclame son président. Nous sommes une alliance défensive, ont d'ailleurs rappelé plusieurs d'entre eux, dont le ministre roumain qui plaide plutôt pour un nouveau renforcement des sanctions.
Imposer une zone d'exclusion aérienne signifierait que l'OTAN entre en guerre, la République tchèque et d'autres pays ont fourni des armes à l'Ukraine pour qu'elle puisse justement faire respecter sa zone d'exclusion.
Nous allons tout envisager comme sanction, a déclaré à son arrivée le chef de la diplomatie européenne. On sait que la Commission d'ailleurs y réfléchit. Josep Borrell, qui n'a pas fermé face aux journalistes la porte à des mesures qui impacteraient directement les achats européens de gaz et de pétrole, ce que l'Union n'a pas encore osé faire jusqu'à présent.
Je parlais de grosses séquences diplomatiques cet après-midi à Bruxelles. Réunion Union européenne plus États-Unis plus Grande-Bretagne. Merci Angélique Bouin. Et Camille Magnard nous a rejoint en studio. Bonjour Camille.
Bonjour.
Le point de la situation ailleurs dans le pays, en Ukraine, au 9e jour de guerre. Le front de la mer Noire d'abord. La bataille continue avec un geste spectaculaire ces dernières heures de la marine ukrainienne.
Oui, marine ukrainienne qui a sabordé hier son navire amiral, la frégate Hetman Sahai Dachny, pour ne pas que les Russes mettent la main dessus. Le bateau a été rempli d'eau et envoyé par le fond en quelques heures dans le port de Mykolaïv, non loin de cette ville de Kherson que les Russes occupent depuis hier et d'où ils ont lancé l'offensive le long de la mer Noire vers Odessa, leur prochaine cible pour priver l'Ukraine de tout débouché maritime, en passant donc par le port militaire très stratégique de Mykolaïv, où les Ukrainiens semblent se préparer au pire.
Ça, c'est donc le front sud. Qu'en est-il pour le front nord?
Alors, des bombardements à nouveau ce matin sur Kiev, des sirènes qui ont retenti comme chaque matin, malheureusement depuis une semaine, mais pas encore le grand assaut russe tant redouté sur la capitale ukrainienne. Kiev, pas complètement encerclé, mais qui voit l'étau se resserrer avec l'avancée des troupes russes qui descendent du nord-est de la région de Tchernihiv, où le bilan des bombardements hier s'est alourdi à 47 morts selon les autorités ukrainiennes. Mais la ville n'est pas tombée entre les mains des Russes, pas plus que Kharkiv, plus à l'est, toujours pilonné, mais qui résiste toujours. Et puis enfin, pour revenir dans le sud du pays, Kherson, oui, on l'a dit, est tombé. Et les Russes s'y installent en force occupante. Ils ont pris le contrôle d'une antenne de télédiffusion et ont commencé à diffuser ce matin leur chaîne de télévision pour tenter de gagner les cœurs et en tout cas les cerveaux de la population ukrainienne.
Dans ce contexte, parole d'un ambassadeur dans un pays en guerre sur France Inter. Étienne de Poncin, pour des raisons de sécurité évidentes, l'ambassade de France à Kiev a déménagé à Lviv. Elle est opérationnelle, dit Étienne de Poncin. Il nous raconte ce voyage particulier entre les deux villes en milieu de semaine. Première question d'abord, entretien enregistré en début de matinée. L'ambassade est opérationnelle, oui, mais dans quelle mesure ?
Alors sur les conditions matérielles, internet, téléphone, communication, qui sont évidemment très importantes pour une ambassade, ça fonctionne très bien. Nous sommes en effectif bien évidemment réduit, nous n'avons pas besoin du même nombre de personnel que nous avions à Kiev.
Ça veut dire qu'il y a combien de personnes autour de vous ?
Autour de moi, j'ai un collègue diplomate, nous sommes une petite dizaine. Oui. Voilà.
Comment s'est passée la route, le trajet? Qu'est-ce que vous avez vu de l'Ukraine? J'imagine que c'était un moment particulier.
Très particulier pour un ambassadeur et pour une ambassade, fermer un poste, ramener le drapeau et partir dans un pays en guerre, déplacer ses équipes, c'était évidemment un défi très important. On a vu un pays en guerre, on a passé un nombre incalculable de checkpoints avec les gens du village en fait qui s'arment et qui créent eux-mêmes leur propre zone de contrôle. On a eu des moments difficiles sur le plan sécuritaire, notamment le premier soir. Nous étions un convoi très important, puisque en plus de moi, il y avait également l'ambassadeur du Japon, l'ambassadeur de Belgique, des diplomates italiens, des diplomates polonais. Donc tout ceci faisait quand même un convoi difficile, mais tout s'est bien passé et grâce au grand professionnalisme du GIGN qui nous accompagnait.
Moment difficile au plan sécuritaire, cela veut dire quoi?
Ça veut dire des détonations, des départs de missiles qui sont passés pas très loin. À un moment, on nous a dit que nous étions à 3 km des forces russes, donc nous avons dû trouver un autre chemin. Et c'est évidemment des moments de tension.
Combien de Français, au moment où nous enregistrons cette interview vendredi matin, combien de Français en Ukraine, combien veulent partir?
Alors, c'est difficile d'avoir le chiffre exact, parce que certains ne répondent pas au téléphone, et donc on n'a pas... Ben c'est ce qui veut souvent dire, dans la très grande majorité des cas, qui ne sont plus en Ukraine, oui. Heureusement. Mais nous considérons qu'il y a environ 850 Français, dont environ 300 sont actuellement sur les routes, à peu près.
Est-ce que vous savez où ils sont? Est-ce qu'il y en a dans des zones particulièrement difficiles?
Alors oui, bien sûr, on cherche d'abord à savoir où ils sont, donc on en a encore dans des zones assez difficiles, notamment vers Kharkiv, à peu près une cinquantaine, à Dnipro aussi, à peu près une cinquantaine. On essaye au maximum de les appeler, d'être en contact avec eux, de leur donner des conseils quand on les a, quand on est sûr aussi des informations qu'on peut leur donner, parce qu'il ne s'agit pas d'envoyer des gens sur les routes si on n'a pas certaines garanties. Par exemple, un moyen qui s'est révélé relativement efficace, c'est les trains. Les trains fonctionnent encore, donc quand c'est le cas, on essaye de les inciter à prendre le train. Et puis maintenant, puisque la guerre se déplace, on va appeler ceux qui sont dans la région d'Odessa, oui, pour leur dire que ça peut être la prochaine région cible et qu'il faut qu'ils partent. Et on leur conseille de partir, nous n'avons pas de pouvoir de décision, mais on va les appeler pour vraiment les rendre attentifs à la situation et leur demander de partir s'ils le peuvent.
Vous-même, à quelles conditions est-ce que vous restez en Ukraine? À quelles conditions est-ce que vous partez?
C'est assez simple, je reste en Ukraine tant que le président de la République me le demande avec mon équipe.
Et j'imagine qu'il y a des niveaux de sécurité où vous vous dites, au-delà de la consigne du président, là ça passe, là ça ne passe pas.
Bien sûr, évidemment, on évalue la situation chaque jour, en permanence, avec les équipes du Quai d'Orsay. Et évidemment, c'est une décision qui ne m'appartient pas, mais qui est prise par les autorités françaises. À ce stade, aujourd'hui, mais c'est évalué chaque jour, on considère qu'à Lviv, la situation est stable. Et d'ailleurs, je note que certains collègues de l'Union européenne qui étaient passés en Pologne reviennent s'installer à Lviv. Mais tout ça, encore une fois, est très très volatile.
Et justement, à votre connaissance, combien reste-t-il d'ambassades? Est-ce qu'il en reste à Kiev ou est-ce qu'il n'y en a plus aucune? Est-ce que celles qui sont encore sur place sont toutes à Lviv?
Alors, ça dépend... Quel format on prend pour les Européens. Je crois que maintenant tout le monde a quitté Kiev pour Lviv ou la Pologne à côté. Il y en a beaucoup qui sont délocalisés juste de l'autre côté de la frontière. Après, pour les autres pays, c'est difficile à dire, mais par exemple les Indiens, les Chinois sont encore à Kiev à ma connaissance. Mais nous sommes en contact et c'est aussi une des raisons pour laquelle on a maintenu l'ambassade à Lviv. Je suis en contact très régulier avec les interlocuteurs ukrainiens, ministériels, pour voir comment on peut les aider, avec les maires, etc. Donc nous sommes en contact. Et le président de la République lui-même, comme vous le savez, est en contact quasi journalier avec le président Zelensky.
Quel rôle pour l'ambassade dans l'exil des Ukrainiens, cette fois-ci, qui veulent partir? Les Européens se sont mis d'accord sur une protection temporaire. Est-ce que il y a des démarches à faire auprès de l'ambassade de Kiev, enfin de Lviv désormais, dans un premier temps, ou est-ce que ça se passe ailleurs?
Non, ça se passe ailleurs, nous n'avons pas les moyens. Par contre, nous avons mis en place, comme vous le savez sans doute, un dispositif consulaire à l'extérieur des frontières, au point de passage, pour aider les Français et également les Ukrainiens qui ont des liens avec la France, je pense le personnel et les recrutés locaux de l'ambassade, pour les aider et éventuellement venir se réfugier en France. Les Ukrainiens n'ont pas besoin de visa, hein, de toute façon, pour venir en Europe, donc une fois qu'ils arrivent à la frontière, ils peuvent la franchir.
Je voudrais finir sur cette image du drapeau que vous mentionniez au début de cet entretien lorsque vous avez transporté ce drapeau de Kiev à Lviv. Il flotte à Lviv, le drapeau français?
Il flotte à Lviv sur le bâtiment de notre consulat honoraire. Nous avions un consul honoraire et donc voilà, j'ai l'ambassade juridiquement, si on peut dire, légalement, et maintenant l'ambassade de France en Ukraine, parce qu'on continue à couvrir toute l'Ukraine.
Oui.
Est à Lviv et j'ai ramené le drapeau de Kiev à Lviv. Oui.
Merci Étienne de Poncin d'avoir pris quelques minutes pour répondre aux questions de France Inter.
Merci à vous.
L'ambassadeur de France en Ukraine, à Lviv, donc désormais, entretien enregistré un peu avant 8h ce matin. Merci à Laurent Macchetti qui nous a permis de joindre l'ambassadeur. On parlait des réfugiés, des personnes exilées. Le chiffre continue d'augmenter. Plus d'1 200 000 personnes ont fui l'Ukraine, selon le dernier décompte de l'ONU. Concernant les Français en Russie, depuis hier, le Quai d'Orsay recommande à ceux dont la présence n'est pas essentielle de partir. Le climat est de plus en plus répressif en Russie. Les locaux de deux organisations de défense des droits de l'homme ont été perquisitionnées ce matin, Mémorial et le comité d'assistance civique. Un projet de loi est examiné qui menace de 15 ans de prison toute diffusion de ce qui sera jugé comme de fausses informations à propos de l'armée russe. L'accès en Russie au site internet de la BBC, du média allemand Deutsche Welle, de Radio Liberté, financé par les États-Unis, est restreint, voire impossible. C'est dans ce contexte que Radio France Internationale a décidé de diffuser la radio ukrainienne. Depuis mardi, sur la page d'accueil du site de RFI en russe, on peut en un clic avoir accès au direct de la station publique UR1 pour que les auditeurs ukrainiens ou ceux qui parlent la langue y aient accès où qu'ils se trouvent dans le monde. Alexandra Akoun.
C'est la radio la plus importante d'Ukraine, celle qui dispose du plus grand réseau FM du pays, disponible dans 192 villes, une antenne publique écoutée par près d'1 million d'auditeurs par jour, qui depuis le début du conflit informe 24 heures sur 24 et à laquelle RFI, via son site en russe, a décidé d'apporter sa puissance. Cécile Mégy est la directrice de Radio France Internationale.
Notre souci était d'accentuer la délivrance d'informations aux populations ukrainiennes en territoire ukrainien et tout autour, voire même plus loin pour les diasporas qui avaient besoin de rester informés au plus près du terrain et au plus directement de ce qui se passait dans leur pays.
Une opération rendue possible grâce à l'Union européenne de radio-télévision, l'UER, RFI et UR1 en font toutes les deux parties.
C'est via l'UER que le signal nous a été notifié comme libéré. Il faut évidemment prendre les précautions nécessaires et de sécurité et de monitoring du contenu aussi. On ne peut pas donner accès comme ça à n'importe quoi, bien sûr, mais on a confiance en la radio ukrainienne. Elle a vraiment une information de très grande proximité sur ce qui se passe sur le terrain. Être aux côtés d'un média public et diffuseur ukrainien nous semblait indispensable.
Et Cécile Mégy de promettre que cette solidarité de diffusion durera aussi longtemps qu'il le faudra.
En Russie, les groupes Intel, les microprocesseurs et Airbnb suspendent leurs activités en Russie et au Bélarus. Et puis Hermès, le géant français du luxe, ferme temporairement ses magasins en Russie et met en pause ses activités commerciales. Les indices boursiers sont à nouveau en baisse, autour de moins 3% à Francfort et Londres en milieu de matinée. Tokyo a perdu cette nuit un peu plus de 2%. Voilà parmi les conséquences économiques. Un autre indicateur qui sera à suivre, c'est l'euro face au dollar. L'euro qui est en baisse face au dollar, au plus bas depuis quasiment 2 ans. Et puis ce conflit colore toutes les rubriques de l'actualité. Les Jeux paralympiques de Pékin s'ouvrent ce soir sans athlètes russes ou biélorusses interdits de concourir. Pas de Poutine aux côtés de Xi Jinping pour l'inauguration ce soir, contrairement à l'ouverture des Jeux olympiques. Les épreuves se déroulent jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Dans la délégation française, il y a 18 sportifs, 14 athlètes et 4 guides.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvic.
Maintenant qu'Emmanuel Macron est entré en campagne, il doit débattre avec ses adversaires à la télévision. C'est l'appel de Valérie Pécresse ce matin. C'est donc par une lettre aux Français dans la presse régionale que le président a annoncé sa candidature à un second mandat, un peu plus de 5 semaines du premier tour. Priorité éducation, dit-il dans cette lettre. Il faudra aussi travailler plus, baisser encore les impôts. Il défend également un art de vivre à la française. Et puis il y a cette phrase, nous n'avons pas tout réussi. Il est des choix qu'avec l'expérience acquise, je ferai différemment. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
C'est vous qui suivez le désormais officiellement candidat Macron pour France Inter. Quelle est la suite ?
Eh bien la suite, d'abord ce sera en fin d'après-midi, tout à l'heure, une vidéo sur les réseaux sociaux. Après avoir pris la plume, Emmanuel Macron va donc s'adresser de vive voix aux Français. Toujours sans question ni débat, le président entre en campagne, mais reste en surplomb. Quand descendra-t-il vraiment dans l'arène ? A priori lundi, déplacement en Ile-de-France, puis le week-end prochain, meeting à Marseille, indiscrétion ce matin du Parisien aujourd'hui en France, mais tout peut être annulé au tout dernier moment, nous dit-on encore au QG. Le président sortant le répète, les circonstances l'empêchent de faire campagne comme il le souhaite. Elle sera sans aucun doute plus resserrée que prévu cette campagne, mais en réalité pas bien différente, il faut le dire, de ce qu'il imagine depuis le début. Tout en haut, un candidat volontairement au-dessus de la mêlée qui parle directement aux Français via quelques rencontres type grand débat, 2 ou 3 meetings et surtout beaucoup de communication numérique. Et à la base, les marcheurs appelé à se surmobiliser. Emmanuel Macron leur écrit ce matin « Je compte sur vous, militants de l'idéal ».
Alors tout de même, qui dit campagne dit équipe de campagne. Est-ce que ce nouveau mouvement implique un remaniement, Simon ?
C'est le plan initial, en tout cas. 3 ministres très politiques appelés à rejoindre l'équipe de campagne. Gabriel Attal de porte-parole du gouvernement à porte-parole du candidat. Julien de Normandie du ministère de l'Agriculture à la direction de campagne et Sébastien Lecornu des Outre-mer au poste très stratégique de conseiller politique. Mais comment justifier dans cette période de déshabiller le gouvernement ? C'est compliqué, même si cela ne les empêchera pas de jouer dans l'ombre sans doute un rôle essentiel. De toute façon, s'amuse un membre de l'équipe, à part celle d'Emmanuel Macron, très peu de têtes dépasseront.
On se dirige donc, sauf surprise, merci Simon Le Baron, vers une liste de 11 à 12 candidats. Philippe Poutou affirme avoir les 500 parrainages. On attend la confirmation du Conseil constitutionnel. La date limite pour déposer les parrainages, c'est ce soir 18h. Les formulaires continuent d'arriver rue de Montpensier. On a vu passer une camionnette de la Poste ce matin vers 8h30. C'est vous qui me disiez ça, Kathleen Contre. Racontez-nous le parcours de ces précieux formulaires.
Bien, direction une première salle, Bruno, avec les agents de la Poste pour vérifier que le nombre de plis annoncé est correct. Chaque enveloppe est tamponnée.
Avec ce décompte, nous en arrivons, n'est-ce pas, Pierre ? 381.
Le compte est bon. Jean Maya, secrétaire général du Conseil constitutionnel, nous emmène ensuite au 4e étage pour l'ouverture des enveloppes.
En nous assurant à ce stade que chaque enveloppe ne comprend qu'un formulaire, puisque telle est la règle.
Une règle que tous les élus ne respectent pas.
Dans cette enveloppe, on a dénombré pas moins de 4 formulaires et donc ils seront certainement tous déclarés invalides.
Les parrainages valides, eux, bien sont tenté. Photocopiés avant d'être mis dans un coffre-fort. À l'intérieur de cette grande armoire, hein, tous les formulaires originaux des parrainages, les dernières vérifications manuelles et numériques s'effectuent donc sur les photocopies avec des erreurs parfois étonnantes.
Il arrive aussi, chose qui continue de me surprendre, que les élus se trompent eux-mêmes sur leur date de naissance. Voilà, ça arrive.
Une fois que tout est en règle, la trentaine d'agents mobilisés transmettent les données aux sages du conseil. Ce sont eux qui ont le dernier mot.
Si des plis devaient avoir tardé du fait du temps d'acheminement postal, le conseil pourrait les prendre en compte encore lundi dans sa décision finale.
En attendant la liste finale des candidats à la présidentielle que nous connaîtrons lundi midi, une nouvelle camionnette de la Poste doit venir cet après-midi déposer les tout derniers parrainages.
Merci pour ce récit très détaillé et sonore. La liste des candidats se devrait être dans l'ordre alphabétique. Artaud, Dupont-Aignan, Hidalgo, Jadot, Lassalle, Macron, Mélenchon, Pécresse, Le Pen, Roussel, Zemmour. Et on verra si Philippe Poutou s'ajoute à cette liste. 2 jours après son agression à la prison d'Arles, Yvan Colonna, l'assassin du préfet Erignac, est toujours entre la vie et la mort. Le gouvernement redoute un mouvement de colère et des débordements de la part de militants nationalistes. Une manifestation est prévue dimanche à Corté. Des dizaines de gendarmes mobiles doivent être envoyés en renfort sur l'île. Quelques 150 sont déjà arrivés. Mais ce matin, les marins du syndicat des travailleurs corses d'obédience nationaliste bloquent un ferry dans le port d'Ajaccio pour empêcher une partie de ces gendarmes mobiles d'accéder en Corse. Bonjour Mathilde Vinceneux.
Bonjour.
Vous êtes en direct, Mathilde Ajaccio, avec Julien Girard.
Oui, dès 6h30 ce matin, les marins du syndicat des travailleurs corses sont montés sur une embarcation de sauvetage pour se mettre en travers de la route du navire de la Corsica Ferries et empêcher l'accostage. À bord, 250 passagers en provenance de Toulon et des gendarmes, une dizaine avec des véhicules. C'est une provocation de l'État pour le délégué syndical Alain Mosconi.
Si on nous envoie des forces de l'ordre, on sait très bien le message qu'envoie l'État. On envoie un de vos militants alors qu'il devrait être en Corse, hein, ceci dit en passage, incarcéré en Corse. Mais on envoie un de vos militants en réanimation entre la vie et la mort. Mais en plus, fermez vos gueules, parce que si vous n'êtes pas content, vous allez prendre des coups de matraque.
Les marins du STC souhaitent renvoyer les militaires vers le continent et faire débarquer uniquement les passagers. Quelques habitants d'Ajaccio sont venus se joindre au mouvement, comme Christiane.
On revendique seulement la justice, parce que c'est une énorme injustice ce qui se passe en ce moment avec l'affaire d'Yvan Colonne. Voilà, tout simplement, nous sommes solidaires.
Le navire vient juste de remettre les moteurs après 7 heures de négociations. Les marins sont une trentaine mobilisés avec une banderole État français assassin. Ils clament des chants corses sur le quai.
Et c'est désormais le parquet antiterroriste qui mène l'enquête pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste 2 jours après cette agression. Le parquet s'est saisi hier. Le détenu qui a attaqué Yvan Colonna est un condamné pour islamisme radical. Le président du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, demande la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire. Commission qui serait composée de parlementaires et d'élus de la collectivité de Corse. Notre chronique arrêt sur audience, le suivi chaque semaine du procès du 13 novembre. Cela faisait un petit moment qu'on n'avait pas entendu Sophie Parmentier et Charlotte Piré, nos deux envoyées spéciales. Le procès a été interrompu 2 semaines parce qu'il y avait encore des accusés malades du Covid. Bonjour Sophie Parmentier.
Bonjour Bruno.
C'est vous cette semaine en direct du Palais de Justice de l'Île de la Cité à Paris. Et puis c'est vrai que ce procès est passé au second plan médiatique. Sophie, d'ailleurs, me disiez-vous, même au Palais, on garde un œil sur l'Ukraine.
Oui, à la fois ici sur les bancs des partis civils et de la défense, eh bien chacun était content que le procès reprenne après ces 2 semaines d'interruption et en même temps impossible de ne pas penser à l'Ukraine. Et sur les marches du palais, lors des pauses, eh bien il y a des rescapés des terrasses ou du Bataclan, des familles endeuillées avec lesquelles je me suis entretenue et qui me disaient que finalement elles avaient l'impression que leur propre procès devenait en ce moment un peu secondaire. Et vous savez que ces partis civils qui sont très soudés entre elles, eh bien là, elles se sentent solidaires des Ukrainiens et d'ailleurs, plusieurs d'entre elles ont lancé des appels aux dons sur les réseaux sociaux.
Ce qui a marqué la semaine, Sophie, dans ce procès, c'est le retour des enquêteurs, ceux qui ont travaillé sur les activités des accusés en Belgique.
Voilà, alors les enquêteurs belges, on les a vus réapparaître, mais enfin à distance, toujours depuis Bruxelles et en visio. Et cette fois, ils sont venus parler des planques belges des terroristes. Alors, ces planques dans lesquelles on a retrouvé des explosifs, du TATP. Et ce qui était vraiment frappant, c'est que ils ont montré des photos de ces planques. Ce qui était frappant, c'est que, eh bien, c'était pas du tout des cachettes souterraines, mais au contraire, des planques qui étaient visibles, qui ont été louées en septembre 2015 sur des sites de petites annonces classiques. Sur les photos, on a vu eh bien, des duplex, par exemple, avec un escalier de bois couleur miel, ou encore des pavillons entourés de pelouses. Et à l'intérieur de ces planques, eh bien, ce sont des ADN qui ont permis de confondre certains accusés. ADN retrouvés sur des objets de la vie quotidienne, par exemple des fourchettes ou des brosses à dents. Je vous donne un exemple, Bruno, une brosse à dents rose sur laquelle on a retrouvé l'ADN de l'artificier en chef des attentats du 13 novembre 2015. On a vu aussi des fausses cartes d'identité belges, 14 fausses cartes d'identité avec des perruques et par exemple Salah Abdeslam avec une moumoute sur la tête et des lunettes au bord arrondi.
Encore un mot, Sophie. Depuis le mois de septembre, on a entendu les parties civiles, les victimes, les enquêteurs, une partie des accusés. Que reste-t-il à voir, à étudier dans ce procès ?
Alors, il va y avoir de nouveaux interrogatoires d'accusés après les enquêteurs belges en mars et en avril. On va évoquer les faits le soir des attentats et puis à nouveau des témoignages de parties civiles en avril et puis les plaidoiries en mai et en juin. Et aux dernières nouvelles, le verdict est attendu entre le 22 et le 24 juin, a dit le président de la Cour.
Sophie Parmentier en direct du Palais de Justice de l'Île de la Cité à Paris. Et ce procès, on le suit sur votre compte Twitter également et sur celui de Charlotte Piré. Allez, petite respiration de plaisir pour finir.
Qu'est-ce que ma journée est bonne, me suis levé du bon pied. Oui, je vais le prendre mon pied, je lèverai seulement pour la danse de la joie.
Stromae, le nouvel album sort aujourd'hui. Il s'appelle Multitude. Ici le titre Bonne Journée. Franceinter.fr vous propose un quiz. Êtes-vous incollable sur Stromae? Allez sur notre site internet pour voir cela. Dans un instant, la météo.
Unis pour l'Ukraine. Soirée spéciale mardi 8 mars, en direct simultané sur France 2 et France Inter, à partir de 21h10. Face à l'urgence humanitaire, un grand concert de solidarité présenté par Leila Kadourboudadi et Nagui, en direct de la Maison de la Radio et de la Musique, avec la participation des formations musicales de Radio France et de très nombreux artistes. Mobilisons-nous pour aider le peuple ukrainien. Vous pouvez faire un don à la Croix-Rouge. Unis pour l'Ukraine, mardi 8 mars sur France 2 et France Inter. Réservez vos places sur Maison de la Radio et de la Musique.fr.
Le temps de ce jour.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
C'est très nuageux à l'ouest, c'est ensoleillé à l'est.
Oui, comme hier et comme demain, la situation va assez peu évoluer cet après-midi puisque la perturbation atlantique qui s'est infiltrée sur le pays fait du surplace. Le ciel reste donc bien chargé entre les Pyrénées, l'ouest Auvergne, le Poitou, le bassin parisien et la Normandie. Quelques pluies se produiront, essentiellement au sud de la Loire. Ces pluies seront plus durables sur le Tarn et aussi le long des Pyrénées. On trouvera plus de soleil en allant vers l'est. Le ciel va aussi s'éclaircir entre la Seine-et-Marne et l'Allier. En Bretagne, l'après-midi alternera entre nuages et éclaircies avec quelques averses. Ce ciel plus changeant se propagera également sur les côtes de l'Atlantique jusqu'aux Landes. Et puis sur la Corse et la Côte d'Azur jusqu'aux Alpes du Sud, le temps sera instable cet après-midi avec des développements d'averses. Et puis les températures sont en baisse, baisse qui va d'ailleurs se poursuivre dans les prochains jours. Pour cet après-midi, prévoyez 10 à 19 degrés et puis à noter aussi du Mistral et de la Tramontane.
Merci Sébastien Léas, Météo France.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
Est-ce que les inégalités entre hommes et femmes régressent? L'INSEE a publié hier soir une étude qui donne une réponse assez globale sur le sujet. Bonjour Sylvie Lemines.
Bonjour.
Vous êtes la responsable de l'unité des études démographiques et sociales à l'INSEE. Présentez-nous cette étude une fois tous les 5 ans, c'est ça? Comment ça se passe?
Oui, alors c'est un ouvrage que l'INSEE fait paraître tous les 5 ans, donc la précédente édition datée de 2017. Et puis c'est une synthèse en fait, hein, c'est un panorama de tout ce qu'on peut dire sur les différences de situation entre les femmes et les hommes pendant l'éducation scolaire, l'entrée sur le marché du travail, les salaires, les métiers occupés, oui, le partage de la conciliation vie familiale, vie professionnelle. Donc c'est un panorama avec les chiffres les plus récents disponibles.
Est-ce que, nanti de tout ça, regard global d'abord, est-ce qu'on peut dire qu'en 5 ans, les inégalités ont quelque peu décru?
Alors les inégalités diminuent, mais lentement, comme ouais, comme on a intitulé notre vue d'ensemble. Lentement parce que il y a des choix d'orientation dans le système scolaire qui très rapidement préfigurent un peu la division sexuée, la ségrégation professionnelle qu'on va observer sur le marché du travail. Il y a toujours des écarts de salaire, ils se réduisent aussi un petit peu, mais ils sont quand même assez importants. Et puis la conciliation vie familiale-vie professionnelle repose quand même toujours beaucoup sur les femmes, et on l'a vu notamment pendant le confinement du printemps 2020.
Ça fait 2 fois que vous revenez sur ce sujet, ça oui, vous a frappé dans cette étude, cette histoire de conciliation vie privée, vie professionnelle. Là, il y a une inégalité peut-être dont on parle un peu moins que les salaires et les autres, et qui vous semble marquante.
Alors, je pense qu'on en parle, mais peut-être qu'on oublie à quel point elle est importante. Il n'y a oui, pas de fait vraiment nouveau, mais on voit bien que les femmes, au moment de l'arrivée des enfants, c'est elles qui se mettent plus souvent à temps partiel. Il y a 3 fois plus souvent de femmes à temps partiel que d'hommes. Alors certes, c'était 5 fois plus il y a une dizaine d'années, mais tout de même, de l'inactivité, des choix de carrière qui font que, par exemple, quand il y a un enfant qui naît dans un couple, des chercheurs ont pu constater que 5 ans après, les femmes avaient un revenu salarial qui était inférieur de 25% au revenu salarial qu'elles auraient eu si elles n'avaient pas eu d'enfants. Et il n'y a pas d'incidence sur les revenus des pères ni sur leur taux d'activité, par exemple.
Les salaires, on y vient avec Véronique. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Voilà, donc moi je travaillais dans un regroupe, donc même service, même âge, qu'un de mes collègues, même fonction, et donc 25% de salaire en moins pour moi. Donc, effectivement, moi, j'ai passé 10 ans de ma vie à avoir un travail, on va dire, alimentaire pour pouvoir m'occuper de mes enfants. Et puis, bien ensuite, quand mes enfants grandissent, j'ai repris le chemin du vrai travail. Mais voilà, j'ai gagné 25% de moins qu'un de mes collègues.
Merci Véronique pour ce témoignage. Sylvie Lominez, l'écart de salaire, quelle part est due à un écart de salaire, même à compétences, à parcours égal, et quelle part est due au parcours professionnel différent des femmes ?
Alors pour brosser un petit peu le panorama, en moyenne en 2019, les femmes ont un revenu salarial qui est inférieur de 22% à celui des hommes.
Donc à peu près le chiffre que nous donnait cette auditrice, qui est un peu au-dessus.
Oui, mais cette auditrice disait que c'était à même poste, même profession, etc. Donc je vais y venir.
Allez-y.
Parce que là c'est global. Dans ce 22%, en fait, il y a un tiers qui est dû à des différences de temps de travail, parce que les femmes travaillent plus souvent à temps partiel. Quand elles sont à temps complet, elles font moins d'heures supplémentaires. Mais la plus grosse partie de l'écart, les deux tiers, proviennent d'inégalités de salaire horaire. Donc il y a 16% d'écart de salaire horaire, et ces écarts de salaire horaire, ils s'expliquent parce que les femmes travaillent plus souvent, notamment dans certains métiers, dans certains secteurs, comme les secteurs des services à la personne ou du soin, qui sont moins rémunérés. Et ensuite, pour en revenir à quelque chose de plus qui se rapproche plus de la situation que l'auditrice évoquait, des analyses montrent que si on raisonne à expérience égale, à âge égal, à profession égale, même à l'intérieur d'une même entreprise, les écarts de salaire horaire se réduisent. Alors, ils ne sont pas de 25%, ils sont de 5% entre femmes et hommes. Et ces 5%, on ne sait pas forcément bien ce que c'est. Est-ce qu'il y a encore de la ségrégation professionnelle, des différences dans les fonctions occupées, encore plus fines que ce qu'on observe, qui peuvent expliquer que ça ? Ou est-ce qu'il y a une part de discrimination ? C'est difficile à dire.
Est-ce que vous avez déterminé des secteurs où cet écart de salaire, toutes choses égales par ailleurs, pour prendre une expression consacrée, est particulièrement marquante?
Alors, je les ai pas en tête. Hein, y a tous les auditeurs intéressés pourront aller voir sur le site de l'INSEE. Mais il y a des secteurs de services à la personne ou dans le domaine du soin qui sont très très féminisés et qui sont peu rémunérés. Et on peut dire que à travail à valeur équivalente, il y a peut-être une moindre reconnaissance des compétences professionnelles des femmes dans certains secteur que des compétences professionnelles des hommes.
Donc les inégalités de salaire pures et dures, si j'ose dire, le temps de travail et l'orientation professionnelle qui se joue à quel moment ? Qui se joue au lycée ?
Oui, ça joue assez tôt parce que dès l'entrée en CP, les jeunes filles sont meilleures déjà que les garçons en français, avec un avantage en français qui s'accroît au cours de la scolarité. Au lycée, elles font déjà des choix d'orientation qui sont un petit peu différents. Elles étaient moins souvent en terminale S, par exemple, les garçons, beaucoup plus en voie littéraire. Oui. Même avec la réforme, on voit que les garçons choisissent plus des doublettes avec des spécialités mathématiques, scientifiques, et les filles un peu moins souvent. Et on le voit très bien dans les choix d'orientation à l'université, où les filles, enfin, ou dans l'enseignement supérieur, où les filles sont nettement moins nombreuses dans les écoles d'ingénieurs, par exemple. Là, elles sont 30% ou dans les grandes écoles de manière générale, et beaucoup plus dans des filières plus sociales, les humanités, même si elles sont aussi très nombreuses dans les formations plus médicales, odontologie, etc.
Est-ce que la part des femmes cadres augmente au fil des années ?
Oui, alors la part des femmes cadres a augmenté. Alors, déjà, dans la population générale, la part des cadres a augmenté avec l'élévation générale des niveaux de diplôme, mais l'essor des emplois de cadres a plus profité aux femmes. Et aujourd'hui, parmi les cadres, 43% sont des femmes, et c'était 21% en 82. Donc c'est deux fois plus. Mais pour autant, les femmes n'accèdent pas aussi souvent que les hommes, par exemple, aux emplois, les 1% les plus rémunérés. Il y a de fortes différences.
Est-ce que Sylvie Lominez, le Covid a rebattu les cartes, et comment c'est jouer ce Covid du point de vue des inégalités hommes-femmes ?
Alors, on a vu pendant le Covid, il y a eu des études spécifiques qui ont été menées et qui ont montré que, par exemple, pendant le premier confinement, le partage des tâches parentales était très déséquilibré, avec des femmes qui faisaient beaucoup plus de tâches domestiques, mais consacraient aussi davantage de temps aux enfants. Les écoles étaient fermées, il fallait suivre la scolarité. Donc là, le déséquilibre était assez flagrant, en effet.
les inégalités hommes-femmes en politique, est-ce que là aussi ça se réduit ou est-ce que ça reste compliqué?
Alors, il y a des lois importantes, hein. La loi de 2020 qui a permis un égal accès des femmes et des hommes à certains mandats électoraux. Donc, la progression des femmes en politique, elle est visible. Vous avez la parité, par exemple, pour les élections régionales, européennes ou départementales. Il n'en demeure pas moins que, ensuite, les fonctions exercées ne sont pas les mêmes. Vous avez 6 présidentes de région qui sont des femmes. Pour les présidentes de conseils départementaux, il y a uniquement 20% des femmes qui sont présidentes de conseils départementaux. Alors elles sont 50% à être vice-présidentes, mais pas présidentes.
Donc on n'y est pas encore à la parité en politique. Un point très important, les maires à la tête de famille monoparentale, le nombre de maires à la tête de famille monoparentale augmente et assez fortement.
Oui, alors on dénombre environ 2,8 millions de familles monoparentales. Dans 82% des cas, il s'agit de femmes. Le nombre de familles monoparentales augmente progressivement hein, depuis de nombreuses années. Sur les 10 dernières années, c'est 500 000 familles monoparentales en plus et sont essentiellement des femmes et qui cumulent de nombreuses difficultés. La vie tout seul déjà avec des enfants, ça a un impact sur le niveau de vie. Une partie de ces femmes sont sans emploi aussi ou un peu plus souvent au chômage que les hommes qui sont à la tête de familles monoparentales et donc avec un risque de pauvreté ensuite qui est important et qui concerne un tiers de ces femmes.
Des femmes qui vivent plus souvent seules, ça aussi c'est une forme d'inégalité ou en tout cas de différence de vie homme-femme à laquelle on ne pense pas si souvent que ça.
Non, pas si souvent que ça. Et nous-mêmes, c'est un point qu'on a un petit peu détaillé. Parce qu'en fait, bon, les femmes vivent plus souvent que les hommes. Elles ont une durée de vie qui est plus longue. Mais elles se retrouvent plus souvent seules. Parce qu'il y a les conjoints qui décèdent au bout d'un moment. D'ailleurs, même à des âges élevés, les hommes se remettent plus facilement en couple plus souvent que les femmes. Et donc, les femmes peuvent se retrouver seules. Et en plus, avec des situations de dépendance à chaque âge à partir de 70 ans qui sont un petit peu plus prégnantes que pour les hommes. Donc elles se retrouvent à vivre soit seules chez elles, beaucoup, beaucoup plus fréquemment que les hommes, ou en institution, dans des EHPAD.
Il y a des chiffres qui vous ont surpris dans cette étude auxquels vous ne vous attendiez pas ? Des détails ?
Non, je peux pas dire que des chiffres nous ont surpris dans la mesure, bon, on regarde les choses année par année, même si on fait un bilan tous les 5 ans, mais on se dit que les inégalités se résorbent quand même lentement et que à la fois la conciliation vie familiale, vie professionnelle qui repose beaucoup sur les femmes, des normes sociales qui sont quand même très ancrées, des stéréotypes de genre qui sont toujours à l'œuvre. Voilà, joue un rôle important encore aujourd'hui.
L'étude, on la trouve sur le site de l'INSEE ?
Tout à fait.
En accès libre ?
Oui.
Alors voilà, on peut aller sur le site de l'INSEE pour avoir d'autres détails et d'autres chiffres. Merci beaucoup.
Je vous remercie.
Sylvie Leminez, responsable de l'étude de l'unité des études démographiques et sociales à l'INSEE, d'être venue dans les studios de France Inter, 13h43.
France Inter, le 13-14.
À suivre, le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Où l'on reparle de la Russie cette fois-ci et du goulag.
Le retour du tragique, on va parler de Chalamov, grand écrivain du goulag.
A tout à l'heure, c'est dans une dizaine de minutes. Avant cela, il y aura le feuilleton consacré à l'avocate Corinne Hermann, cette semaine spécialiste des cold case. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Il aura été beaucoup moins médiatisé que les autres années. Le Salon de l'agriculture ferme ses portes dimanche. Une agricultrice est à votre micro aujourd'hui. Le temps d'une chanson, elle s'appelle Manon Pisani, 27 ans. Elle s'apprête à reprendre un élevage de porc en région Occitanie.
Ce sera chose faite d'ici la fin du printemps. Normalement, le propriétaire de l'exploitation aimerait faire valoir ses droits à la retraite. Et pour elle, pour Manon Pisani, pourtant fille d'agricultrice, cette reprise est l'aboutissement d'un parcours plein de rebondissements.
Le combat a été long parce que mes parents n'ont jamais souhaité que je fasse ni d'études agricoles ni que je sois agricultrice. Tout simplement, je pense qu'ils espéraient un meilleur avenir pour moi, enfin en tout cas selon leurs critères à eux. Et de ce fait, j'ai un parcours scolaire qui est assez atypique, donc un bac littéraire, une licence de droit, j'ai préparé le concours d'inspecteur des impôts. Et là, je me suis dit, mais en fait, tu vas pas t'épanouir dans ce métier-là. Et je me suis réorientée. J'ai fait un BTS de gestion comptable agricole, puis une licence de spécialisation en production animale et notamment en élevage porcin, avant d'avoir une équivalence après sur un diplôme d'ingénieur. J'ai travaillé en tant que chef d'élevage porcin sur un élevage dans le Tarn-et-Garonne. Et là, maintenant, je me sens prête, je m'installe à mon propre compte pour être chef d'entreprise.
Si on t'organise une vie bien dirigée, où tu t'oublieras vite. Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte. Tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas. Résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste. Résiste, suis ton cœur qui insiste.
Résiste, tube sorti en 1981 sur l'album Tout pour la musique. Et si elle a voulu qu'on entende cette chanson-là, c'est en premier lieu pour l'énergie qui s'en dégage et le message qu'elle porte.
Effectivement, c'est la raison qui a fait que Marion Pisani a choisi cette chanson écrite par Michel Berger pour France Gall.
Résiste, prouve que tu existes. C'est quelque chose qui me parle en parallèle de mon travail d'agricultrice. Je suis engagée syndicalement chez Jeunes Agriculteurs. Et la défense de mon métier, je l'ai dans le cœur. Et puis résiste, oui, parce que il a fallu que je me fasse une place au sein de ma famille. Il a fallu que je me fasse accepter par mes parents. En tout cas, le fait que je puisse être agricultrice un jour. Et c'est pas de la grosse résistance, mais résiste quand même, quoi. On a une idée et on y va coûte que coûte. Et on lâche rien. Ça me fait penser à ça.
Vous savez que votre bonheur, il est là.
Moi, mon bonheur, il est au milieu de mes animaux, à la campagne, mais en fait, en plus d'être chef d'entreprise, je suis éleveuse de cochons, mais aussi sage-femme, médecin, vétérinaire, banquière, comptable, fiscaliste. En fait, le bonheur, il est partout, ne serait-ce que dans mon quotidien au travail. Et mon métier, il est tellement grand, il ouvre tellement de champs de possibilités qu'au final, il n'est pas toujours facile, mais on y trouve une certaine source de bonheur. Ouais.
Si tu réalises que l'amour n'est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi, résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste.
C'est une chanson qui vous arrive de fredonner, de siffloter?
Non, mais en tout cas, je l'ai toujours quelque part dans le coin de ma tête en cas de doute. Je me dis, ouais, mais en fait, non, il faut pas se laisser abattre. Enfin, pour exister, moi, je pense qu'il faut résister. Et c'est aussi le message que j'ai envie d'envoyer aux peuples qui sont dans la détresse. Ne vous laissez pas faire et résister, quoi, au maximum.
Danse pour le début du monde. Danse pour tous ceux qui ont peur. Danse pour les milliers de cœurs qui ont droit au bonheur. Résiste.
Résiste. France Gall, c'était donc, Frédéric, le choix de Manon Pisani.
Jeune agricultrice que vous pourrez croiser jusqu'à dimanche au salon de l'agriculture Porte de Versailles à Paris, sur le stand du syndicat Jeunes Agriculteurs.
Et vous savez qui d'autre on peut croiser au salon de l'agriculture aujourd'hui même?
Vous allez nous le dire.
Mathieu Vidard qui présente La Terre au Carré en direct. On dialoguera avec Mathieu.
Il chante bien, je crois, en plus.
Dans quelques minutes. Merci beaucoup Frédéric Pommier. Bon week-end à vous.
À lundi.
C'est le dernier épisode de notre feuilleton consacré à l'avocate des cold cases, les affaires non résolues, Corinne Hermann. La justice a inauguré cette semaine à Nanterre un pôle judiciaire dédié à ces crimes en série et non élucidés. Trois juges d'instruction s'y consacreront à 100%. Et c'est une vraie chance de sortir du noir pour certains dossiers très anciens, comme l'affaire des disparus de l'Isère. Résumé de cette affaire, plusieurs enfants disparaissent dans les années 80 autour de Grenoble. Certains ont été retrouvés morts, un garçon a survécu, d'autres n'ont jamais été retrouvés, comme la petite Charazed. Elle avait 10 ans Corinne Herman représente sa sœur Férouz Bendouyou. Shahrazad, d'un an sa cadette, a disparu un jour d'été. Au micro de Corinne Audouin, Corinne Herman raconte.
C'est le 8 juillet 87, on est au début des vacances scolaires. Shahrazad a 10 ans, elle va descendre les poubelles et l'histoire du dossier, l'histoire publique, c'est qu'elle a disparu en déposant les poubelles dans la cave. Elle habite dans un HLM, il fait très chaud ce jour-là, il y a un orage qui s'annonce. Et il va falloir plusieurs années de travail pour qu'un jour, enfin, on ait une autre histoire. En réalité, en écoutant des membres de sa famille, on va se rendre compte que Shahrazad n'est pas disparue dans la cave, mais est bien remontée de cette cave, et qu'elle est partie ensuite rejoindre quelqu'un ou qu'elle avait un rendez-vous, et plusieurs témoins vont la voir. Shahrazad, elle s'est pas évaporée, il y a des personnes qui l'ont vue, et il est pas trop tard, mais il est temps que les témoins parlent. Et je vous assure que dans des tas de dossiers, on a des témoignages qui arrivent des fois 20 ans, 25 ans, 30 ans après, qui nous aident à débloquer la situation. C'est d'abord Férouz Bendouyou qui découvre à l'occasion d'une interview sur un plateau télé, qui apprend très durement par un policier qui est invité sur ce plateau télé, que en fait le dossier de sa sœur n'est plus investigué, qu'elle n'est pas recherchée par la police et la justice. Tout va démarrer comme ça, et donc Férouz va nous saisir, et elle va nous mettre en contact avec les autres familles qu'elle va elle-même contacter. Et là, on va se rendre compte du désastre, c'est-à-dire que quand on va demander la copie des dossiers, on va se rendre compte qu'on n'a aucune copie d'aucun dossier. Il a fallu qu'on fasse un scandale auprès du ministère de la Justice pour qu'enfin un juge d'instruction soit désigné et reprenne ses affaires. Il appelle Férouz ?
Allô?
Oui, tu m'entends?
Oui.
On est censé voir le juge d'instruction dans quelques semaines. Voilà, je voulais savoir ce que t'en pensais.
Moi, je vais être sincère. C'est pas que j'attends rien de cette nouvelle juge, hein, pas du tout, au contraire. Mais j'ai 45 ans. Ça fait 30 années que, jour après jour, je suis. Ça fait 35 années que les dossiers nous passent tous sous le pif avant que nos dossiers soient traités. Et en fait, j'ai surtout pas envie d'entendre dire « Oui, mais depuis la dernière fois qu'on s'est vu, il s'est passé 5 ans, il n'y a rien eu. » Là, si on n'y arrive pas, c'est parce qu'il n'y a absolument personne sur le terrain.
On a une instruction qui n'avance pas, pas vraiment. On n'a rien. Donc il va falloir à nouveau que tout le monde remonte au créneau. Il reparle de ses affaires pour qu'enfin la justice s'en saisisse. Et c'est là où le pôle pénal qui vient d'être créé est essentiel. Parce que là, on va avoir des magistrats qui vont pas se poser la question des limites administratives, qui vont avoir les outils pour peut-être travailler sur un tueur d'enfants qui a peut-être traversé la France et qui a peut-être fait beaucoup plus d'actes qu'on ne le pense. Il y a clairement un mépris social. L'origine de ces enfants, des personnes qui venaient de s'installer dans la région, qui venaient de l'étranger, qui ne parlaient parfois même pas français, qui vivaient dans ces HLM, et on les a abandonnés purement et simplement pour ces raisons-là. Il y avait d'autres choses à faire.
Nous, ça fait 35 ans qu'on la cherche. Dans ce genre d'affaires, en fait, c'est pas à l'instant T hein, qu'on n'est pas bien. C'est toute la vie. Là, c'est une histoire sans fin, en fait. Même les moments les plus bénéfiques, on se dit, mais elle aurait pu voir, elle aurait pu vivre ça.
Il leur est arrivé le pire, et puis bah, nous, on doit être la voix pour eux. L'avocat, il parle pour, mais nous, on n'est qu'une courroie de transmission entre tout le monde. Et donc, je pense qu'au-delà du travail de réactiver un dossier, demander des actes d'enquête, etc., c'est vraiment ce rôle d'accompagnement qui est important. Et puis, c'est apaiser des douleurs quand on peut, ou en tout cas servir de paratonnerre par rapport à la justice très souvent aussi. C'est compliqué, c'est un engagement, en tout cas, ça c'est sûr. C'est un engagement.
L'avocate Corinne Herman, avec qui nous avons passé cette semaine dans le feuilleton Une semaine dans leur vie, vous retrouvez tous les épisodes, y compris un en bonus, puisque l'épisode de mercredi, vous n'avez pas pu l'entendre, nous étions avec la communauté ukrainienne de Paris. Tout cela, vous le retrouvez sur franceinter.fr et sur les bonnes plateformes de podcast.
France Inter, le 13-14.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire. La Russie de Poutine réprime toute contestation de la guerre en Ukraine. Il qualifie le président russe, ses ennemis ukrainiens de nazis. Et dans ce climat de plus en plus menaçant, vous dédiez demain votre émission Intelligence Service et ce vif de l'histoire à un grand écrivain qui a connu le goulag, Varlam Shalamov. Les éditions Verdier lui consacrent un essai et publient une traduction des souvenirs de la Kolyma, écrit par Shalamov. La Kolyma,
c'est un versant du goulag particulièrement cruel. L'archipel du Goulag est apparu, à qui n'était pas aveuglé, sous différentes faces dans l'œuvre de Solzhenitsyn, dont il faut noter qu'elle est de moins en moins en cours dans la Russie officielle de Poutine, trop critique vis-à-vis du commandement de Staline pendant la Grande Guerre patriotique. Des camps, Poutine fera bientôt dire qu'ayant mis des millions de détenus au service des infrastructures et de l'industrialisation, ben ils ont aidé l'URSS pendant le conflit de 1941-1945. Le président de Mémorial France, Mémorial Russie est interdit maintenant, Nicolas Vert estime à 20 millions le nombre de personnes qui sont passées par le goulag pour parvenir à un bilan de 2 millions de morts qui, si je puis me permettre, auraient été plus utiles vivants.
Et à la lisière de l'archipel du Goulag, Chalamov a fait l'expérience et le récit d'un lieu particulier au nord-nord-est de la Russie, la Kolyma, qui est donc à la fois une région et un nom associé au Goulag.
Alors, Chalamov avait participé tout jeune à la manifestation d'opposition de 1927, la dernière manifestation publique sur la place Rouge avant 1967. 40 ans sans manifestation populaire. Arrêté une première fois, il est envoyé dans un camp classique de l'Oural central. Encore arrêté en 1937 par les grandes purges staliniennes, sa destination est cette fois la Kolyma. Quand on regarde une carte, on se dit qu'on peut vraiment pas aller plus loin. Il faut 40 jours de train, 5 jours de bateau pour rejoindre Magadan, la capitale, et ensuite l'unique route que les détenus construisent eux-mêmes et qui les mène à des mines et à des centres concentrationnaires. Si la mortalité dans l'ensemble du goulag est de 1 sur 10, elle est de plus d'un tiers dans la Kolyma. Il peut faire moins 60 dans cette région. Le permafrost ne dégèle jamais. Les couches souterraines contiennent aussi bien des corps non décomposés que de l'étain, de l'or, du tungstène ou de l'uranium.
Et pour un détenu, évidemment pas question d'écrire, Chalamov ne pourra changer la pelle et le pic contre le crayon qu'en devenant aide-infirmier.
Alors deux protecteurs providentiels lui permettent de faire une formation d'aide-soignant, d'aide-infirmier, un métier qu'il exerce d'abord en détention, puis une fois à demi élargi en 1951 dans les villages alentours. Et c'est à ce moment qu'il commence à rédiger. D'abord sur du papier d'emballage, puis sur des cahiers. Certains passeront à l'étranger. En France, leur premier éditeur, dans les années 1970, sera Maurice Nadeau. On commencera alors à lire les récits de la Kolyma.
Solzhenitsyn, quant à lui, est moins lu aujourd'hui. Ses lecteurs ont pu être découragés par la croissance exponentielle de ses livres. Les récits de Chalamov, attention, teasing, Frédéric Pommier va bientôt arriver, les récits sont souvent courts, Jean Lebrun.
Et d'autant plus réussis qu'ils sont courts. On pourrait même dire lapidaires. Solzhenitsyn leur reproche de ne pas faire assez de place à la psychologie, à la biographie de leurs personnages. Ça manque Dieu, dit-il. Il avait proposé à Chalamov de co-écrire l'archipel du Goulag avec lui. Un récit présente les deux hommes allongés dans un parc, sur le ventre, dans l'herbe et devisant. Rare moment de loisir pour ces deux grands écrivains, rivés chacun à leur projet. Chalamov finalement a refusé la collaboration. Il ne voulait pas participer à un chant choral afin de garder sa voix et singulière.
Et comment le lit-on, comme un témoin?
Alors inévitablement, exemple.
De mon visage, tu voudrais lisser les plis, les rides, un rêve vain. Par la taïga, ils ont été tracés, relief des combes et des ravins.
Mais si c'est un témoin, c'est un poète. D'abord, vous l'avez entendu, il n'y a pas question chez Chalamov d'histoire, encore moins d'exemplarité.
Il est comme le pin nain qui tente de pousser à l'horizontale dans la taïga et qui, saisi d'une tension craintive, sous la neige, reste soumis, immobile. Pierre vit captive, pas une aiguille ne frémit.
Chalamov est mort, enseveli vivant, en 1982, d'abord dans un hospice misérable, puis dans un asile d'aliénés où on l'avait transféré de force. À cette époque, en Union soviétique, la psychiatrie était devenue une branche de la science carcérale. Cependant, il eut un bel enterrement, avec beaucoup d'admirateurs autour de lui. Les Russes en ont tellement vu qu'ils gardent pour les poètes un respect que peu de peuples aujourd'hui partage.
Varlam Chalamov dans Intelligence Service demain à 18h sur France Inter et deux livres référence aujourd'hui, Le Semeur Dieu Sentier de Varlam Chalamov de Luba Jurgensen et elle participe à la traduction des souvenirs de la Kolyma toujours chez Verdier. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Mais je ne vous vois pas, où êtes-vous ?
Nous sommes au Salon de l'agriculture et nous allons parler du problème du renouvellement des générations de paysans à la rencontre justement de tous ces jeunes qui, eux, ont décidé de faire ce métier. Donc on va les rencontrer et ce sera dans un instant, juste après les infos.
À tout de suite pour la Terre au Carré au Salon.